Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Le thème de ce matin, c'est « Réveille mon oreille » et le texte de référence se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. Il est écrit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. On aborde, je vous le disais, une série de trois messages qui s'intitule « Retrouver les vrais sens ». Le premier message, celui de ce matin, « Réveille mon oreille ». Nous verrons ensuite un second message appelé « Du miel sur ma langue » et le dernier s'intitulera « Un regard qui donne la vie ». L'objectif de cette série est d'édifier les croyants, bien évidemment, à développer ou retrouver une bonne pratique des sens spirituels indispensables à la vie de disciples. Nous avons, nous, des sens, on va dire, physiques. Le toucher, l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe, etc. On a combien de sens? 5. Certains vont même aller en chercher un sixième. Déjà, 5 sens, c'est pas mal, pour appréhender ce qui est autour de nous. Moi, je dis que le sixième sens, il n'y a que les chrétiens qui peuvent l'avoir, c'est celui du Saint-Esprit ou ceux qui sont animés de mauvais esprit. Mais à partir de là, ce sixième sens est terrible. Mais à partir de là, on va aborder les trois sens importants de la vie spirituelle. Le passage d'Ésaïe que nous méditons aujourd'hui traite du serviteur souffrant. Ésaïe traite sur plusieurs chapitres de cette thématique du serviteur souffrant. C'est dans un contexte évidemment prophétique qu'il expose qui est ce serviteur souffrant sur donc plusieurs chapitres de son livre. Ce serviteur est décrit comme étant rempli d'humilité et vivant dans une dépendance à Dieu dont il tire toute la force, selon qu'il déclare au chapitre 49 et au verset 5, « Ma force, c'est mon Dieu ». Voilà ce que dit ce serviteur souffrant du livre du prophète Ésaïe. Oh, certains ont beaucoup cherché à savoir qui était ce serviteur souffrant, dont Ésaïe donne la description, la définition. Était-ce Ésaïe lui-même? Était-ce un prophète de l'Ancien Testament? Qui était ce serviteur souffrant? Certains ont même dit c'est peut-être l'Israël de Dieu. Mais nous savons évidemment que ce serviteur souffrant dont il est question dans ces chapitres du livre du prophète Ésaïe, il est question du Christ, le serviteur souffrant. Alors, les Juifs avaient du mal avec le serviteur souffrant. Ils étaient plus à rechercher le serviteur glorieux, victorieux, que le serviteur souffrant. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont passés à côté de Jésus-Christ. Ils attendaient un Messie qui allait prendre le pouvoir, mais c'est un Messie souffrant qui est venu. Un Messie qui semblait être faible dans ce qu'il déployait. Mais il n'est pas que ce serviteur souffrant, il est aussi ce serviteur plein de force. Et cette force, le serviteur souffrant va dire, c'est en mon Dieu que je la puise. C'est cet unique aspect qui permet au serviteur souffrant d'espérer contre toute espérance, de persévérer malgré la souffrance et d'affirmer dans toujours le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50, versets 4 et 5, Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Quel formidable serviteur Ésaïe nous présente là. Nous savons que cette prophétie d'Ésaïe prend tout son sens et trouve tous ses accomplissements en Jésus-Christ. Serviteur par excellence, le modèle divin à suivre, il est l'Israël de Dieu. À son exemple, nous devons aussi réaliser, accepter et prier afin d'être des serviteurs à son image, à sa ressemblance. Et quel défi pour nous ! Quel défi pour nous ! Le Christ ne vous demande pas, Dieu ne vous demande pas de ressembler à votre pasteur ou je ne sais pas à qui, sur qui vous pourriez mettre les regards, une personne qui pour vous est peut-être une référence dans votre vie. La seule personne qui est le modèle à suivre, c'est le Christ. Et je dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Et c'est pas parce qu'il y en a beaucoup à faire qu'on doit se décourager. Au contraire, on a encore du chemin. À son exemple, nous devons aussi réaliser, accepter et prier afin d'être des serviteurs à son image, à sa ressemblance, des disciples humbles et dépendants totalement de Dieu, des serviteurs capables de le servir malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré les persécutions et toutes les difficultés qui s'attachent à son appel. Et ceci afin de pouvoir soutenir par la parole ceux qui sont abattus. On pourrait dire, mais la spiritualité, c'est d'abord pour moi. Non, tu ne vis pas ta spiritualité pour toi. Tu vis ta spiritualité pour les autres. Alors j'accepte bien volontiers de souffrir en mon corps, en ma chair, en mon âme, s'il le faut, de vivre dans des conditions difficiles. Si le Christ permet ces choses dans ma vie, pour me rendre à l'image de ce serviteur souffrant, afin que ma langue soit exercée, mais auparavant que mon oreille soit ouverte, pour qu'après ma langue soit exercée afin que je puisse soutenir ceux qui sont abattus. Quels sont ceux qui sont abattus ? Sont-ils ceux qui sont dans l'église découragés ? Ils ont le Christ dans leur vie. Ou sont-ils ceux qui sont dans la foule au milieu du monde et qui sont languissants parce qu'ils cherchent un berger vers qui aller ? Christ voyait le monde comme une foule languissante, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il était ce serviteur souffrant qui allait vers les gens, qui attendait une réponse, qui cherchait désespérément la grâce dans leur vie. La grâce. L'avez-vous trouvé ce matin ? La grâce dans votre vie. Vous savez comment on sait qu'une personne a trouvé la grâce dans sa vie ? Parce que cette personne est pleine de grâce. C'est pas le tout de dire j'ai trouvé la grâce, mais de ne jamais la vivre. La donner aux autres, l'accorder aux autres. La première des choses, quand on reçoit la grâce, c'est évidemment qu'elle vient établir une paix, un calme dans notre cœur. La culpabilité s'en va, le pardon prend place. Mais elle ne va jamais, cette grâce, sans nous permettre de la manifester vis-à-vis des autres, d'accorder notre pardon aux autres. D'être des hommes et des femmes infiniment patients. Combien de temps le Seigneur a dû attendre pour que tu réalises la grâce qu'il t'avait faite ? N'a-t-il pas été patient avec toi ? N'a-t-il pas pris du temps avec toi ? N'a-t-il pas été rempli de douceur avec toi ? N'a-t-il pas été plein de compassion avec toi ? Ne s'est-il pas assis à côté de toi ? Ne t'a-t-il pas pris dans ses bras ? Ne t'a-t-il pas fait grâce ? Et ô combien d'amour a-t-il déversé dans ton cœur et dans ta vie ? Comment peux-tu aujourd'hui, toi, juger. Comment peux-tu aujourd'hui, toi, ne pas établir la grâce dans la vie de ceux qui sont à côté de toi ? Soyons pleins de grâce, pleins de cette grâce, patients, persévérants, espérants contre quoi ? Contre toute espérance, c'est-à-dire même s'il n'y a plus d'espoir, le chrétien espère encore. Madame, il n'y a plus d'espoir. Monsieur, il n'y a plus d'espoir. Ça changera jamais. Mon œil. Parce qu'avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Et moi, j'ai vu dans ma vie et dans la vie de tellement de gens, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le ministère et encore plus au Seigneur. J'ai vu des gens au fin fond du désespoir, abandonnés de tous et de toutes. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour aller les chercher. Quand j'étais dans le fond du fond, dans le ventre du poisson, aurait pu dire Jonas. Là, j'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru. J'étais abandonné de tous, au plus profond du plus profond, mais il m'a secouru. Il est venu à mon aide. N'espère pas après des hommes, après des femmes, après une méthode. N'espère pas après une religion, espère après le Christ, de celui qui est le serviteur souffrant. Et oh, béni soit Dieu qu'il soit venu comme serviteur souffrant, et pas que comme serviteur glorieux. Non ? Ce serviteur souffrant, quand il s'approche de moi, je sais qu'il me comprend. Je sais que ce que je vis, il l'a vécu et bien plus encore. Je sais que son âme est toute prête à réaliser ce que je vais lui dire. Et pourtant, il pourrait me dire, tais-toi, je sais déjà. Mais il s'assoit et il écoute. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi patient de ma vie entière. Ah, je ne m'épanche pas dans l'église. J'ai mon bureau et ma chambre pour le faire. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi patient. Quelqu'un qui peut écouter tout ce que j'ai à lui dire. Quelqu'un qui peut entendre tous mes mots, toutes mes phrases, toutes mes paroles. Et vous savez ce qu'il faut faire une fois qu'on a déversé sur le Christ tout ce qu'on a à lui dire ? C'est avoir la décence et la patience d'attendre et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Parce que c'est facile de venir dans les églises, et là je vous cite une phrase de Jacques Brel, de venir dans les églises, et là, dans la lumière tamisée, de venir déverser tout ce qu'on a à déverser devant un Dieu qui se tait pour mieux nous pardonner, dirait Jacques Brel. Un Dieu qui se tait pour mieux nous pardonner. Mais moi, je vais vous dire une chose. Dieu ne se tait pas. Dieu parle. Et Dieu a à dire des choses dans nos cœurs et dans nos vies, que nous soyons capables d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui nous écoute. Mais j'aimerais que notre Dieu soit heureux d'avoir un peuple qui l'écoute. Un peuple qui l'entend, un peuple qui reçoit ses paroles. Pas juste comme des bénédictions qu'on additionne les unes par-dessus les autres, mais des paroles qui vont tout changer dans notre vie, parce qu'on va s'efforcer d'y obéir. Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider, parce que lorsque Dieu parle, le Saint-Esprit agit. Et quand Dieu parle, je m'attends à ce que ça se suive dans les cœurs et dans les vies. En tout cas, dans les cœurs et dans les vies où le Saint-Esprit est présent. C'est celui qui met en place la volonté de Dieu en nous. Il est l'agent agissant de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Il nous amène à poursuivre l'œuvre de Dieu, à l'accomplir. Rien ne vient de nous, si ce n'est que nous acceptons que le Seigneur agisse. Voilà bien une des grandes finalités du serviteur souffrant d'Ésaïe, qui est l'objet de 4 cantiques prophétiques dans son livre. 4 cantiques nous parlent du serviteur souffrant. Vivre comme un serviteur ou une servante de Dieu réclame de savoir écouter. Au verset 4, il éveille, chaque matin il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Savoir écouter n'est pas une chose facile. Déjà, je me prêche à moi-même. Par moments, des personnes veulent me parler, mais au bout de 3 phrases, je sais déjà où elles veulent aller. Alors pour éviter de perdre trop de temps, je vais leur donner déjà ce que je pense être les solutions. Comme ça, on va épargner du temps. Seulement, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de gens veulent parler sans pour autant avoir des solutions. La seule chose qu'elles ont envie, ces personnes, c'est quoi ? De parler. C'est compliqué une âme humaine, vous savez. Si vous ne vous rendez pas compte, commencez à essayer de sonder la vôtre. Et vous verrez déjà combien vous êtes compliqué. Et que les autres le sont tout autant que vous, si ce n'est peut-être plus, en fonction de l'histoire, du vécu, de l'éducation, etc. etc. Oui, il y a plus compliqué que toi, rassure-toi. Il y a ton pasteur. Ça va ? Comme ça, je me mets dans les plus compliqués des plus compliqués. Si vous voulez en avoir quelques témoignages, je vous invite à venir voir mon épouse et mes enfants. Et vous verrez que je suis très compliqué. Quand je suis au fond du désespoir, dans le fond du gouffre, bon courage à celui ou à celle qui se sent poussé de Dieu pour venir m'encourager. Ma femme a déjà essayé. Et elle a vite abandonné. C'est dur d'aller encourager un serviteur de Dieu. Elle vient et je lui dis, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas m'apprendre ? Mais j'ai rien à t'apprendre. Ah, ça tombe bien. J'ai pas forcément envie d'apprendre quelque chose là où j'en suis. Si tu as une parole de Dieu, alors oui, je veux bien l'écouter. Et une parole de Dieu. Votre avis, ça ne changera pas une vie. Mais une parole de Dieu. Et il n'y a pas besoin d'en faire des phrases et des phrases et des phrases. Une parole de Dieu. C'est comme une pomme d'or sur des ciselures d'argent. C'est la chose la plus précieuse qui soit. Samuel disait, je ne laisserai pas tomber à terre aucune de tes paroles éternelles. Une parole de Dieu, une seule parole de Dieu peut changer, réformer toute ta vie. On devrait être tellement attentif à la parole de Dieu, tellement attentif à ce que Dieu nous dit. S'il n'y a pas de changement dans ta vie, pose-toi des questions par rapport à ton écoute. Savoir écouter n'est pas une chose facile. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de maîtriser certaines choses en nous qui veulent aller plus vite que la mesure. On voudrait arriver à la fin du film avant que l'introduction soit faite. Ça vous arrive jamais, vous, de prendre la télécommande et de faire... Ah, j'aime pas ce passage, là, c'est trop mou. J'avance pour aller voir plus loin. Puis on arrive plus loin, puis d'un seul coup, on se dit, ah, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, là. Ah bah oui, t'as loupé tout un bout de l'histoire. Et d'un seul coup, tu comprends pas pourquoi les personnages, d'un seul coup, ils se font la guerre. Ils avaient l'air tellement bien avant. Ah ouais, bah t'as loupé un passage. Ça va être dur de comprendre la fin en zappant tout un passage. Et certaines personnes, dans leur vie, ont zappé tout un passage. Ils se rappellent de certaines choses. Puis ils se rappellent aujourd'hui, puis ils oublient tout ce qu'il y a eu entre deux. Seulement l'entre-deux, qui a été un peu zappé là, c'est lui qui cause les problèmes. C'est lui qui met à mal notre âme. Et c'est là que le Seigneur veut intervenir. C'est là qu'il veut agir. C'est dans ces situations qu'il doit guérir. Afin que notre actualité, et encore plus notre avenir, devienne tout autre que celui qu'on est en train de se forger, se construire nous-mêmes, s'établir nous-mêmes avec nos petits plans, nos petits projets, nos petites envies. Le Seigneur te bloquera, il t'arrêtera, d'une manière ou d'une autre. Certains dans l'Église pourraient très bien dire aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le Seigneur m'a arrêté. Et je pense que si on leur laissait la parole, certains diraient, oh là là, il ne fait pas bon d'être arrêté par Dieu dans sa vie. Et je vous le confirme. Je vous le confirme. Alors avant qu'il vous arrête, soyez de ceux et de celles qui savent se poser devant lui. Se reposer devant lui. Parce que se poser, c'est bien, se reposer, c'est encore mieux. C'est se poser deux fois. C'est pas juste, je me pose, c'est bon, ça va. Non, c'est, je me repose dans le Seigneur. Notre stagiaire Mathias nous disait, enfin me partageait, qu'il avait vécu quelque chose d'étonnant. Il s'était mis, tu m'excuses de le dire devant l'église, mais il s'était mis chez lui, sur son fauteuil, et là il a rien fait, juste il s'est reposé pendant une heure, à rien faire, mais rien, même pas pris, rien, juste laisser Dieu agir. Et il m'a dit, waouh, comment le Seigneur m'a renouvelé pendant ce moment-là. Nous on croit que Dieu nous renouvelle pendant qu'on est en train de faire plein de choses. Il peut le faire. Il nous renouvelle pendant notre marche, dit la Bible. Mais il est aussi celui qui a instauré le sabbat, et on aura l'occasion d'en reparler. Il est celui qui veut que nous nous posions et que nous nous reposions. Nous, notre mari, notre épouse, nos enfants, trop d'agitation. Nous passons à côté de ce que Dieu a pour nous et finalisons nos plans au lieu de finaliser les siens. Et on s'étonne d'avoir des problèmes. C'est pas étonnant. Et se reposer, c'est pas glander. C'est être dans un temps de qualité avec Dieu. Conscient de sa présence. Conscient que c'est lui qui est en train d'agir dans notre vie. Pour beaucoup de personnes, il est même plus facile de parler que d'écouter. Mais même parmi ceux qui ont du mal à parler, il y en a. Je suis timide, je ne sais pas parler. Même ceux qui ont du mal à parler. Parmi eux, tous ne sont pas forcément aptes à écouter. L'écoute selon la perspective dans laquelle Dieu désire nous entraîner est une qualité, un sens spirituel tellement, tellement, tellement important. Il y a des années, j'étais en équipe avec un serviteur de Dieu et il était surchargé. Et puis, quand je lui parlais, au début, il me regardait, puis à un moment donné, il était là. J'ai un problème. Il me regarde pas, il m'écoute pas. Alors je lui parlais de temps en temps, je le sondais. Hein, t'es d'accord? Hein, quoi? Ah, il était plus là, quoi. Je parlais à quelqu'un qui n'était pas là. Il était, je sais pas où, dans ses problèmes. Et puis à certains moments, je me suis rendu compte que, après des années, ça me le faisait aussi vis-à-vis de certaines personnes qui venaient me parler, où je partais dans mes pensées, et j'écoutais plus. Ça t'est jamais arrivé à toi? T'es en train de faire tes affaires et puis ton enfant te demande quelque chose, puis il est là en train de demander et tu ne l'entends pas en fait. Et il te parle. Et il attend qu'une chose, c'est que tu t'arrêtes, que tu te retournes et que tu l'écoutes. Oui, mais c'est pas important ce qu'il a à dire. C'est pas important ce que ton enfant a à te dire. C'est pas important ce que ton mari a à te dire. C'est pas important ce que ton épouse a à te dire. C'est pas important. Alors dis-lui dans le visage, pour moi, toi, tu n'es pas important. Parce que concrètement, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. En tout cas, c'est ce que l'autre perçoit de toi. C'est ce qu'il réalise de toi. Après avoir terminé la série dans l'intimité de Dieu, il m'apparaissait important de nous entretenir sur l'écoute du disciple. Comment vouloir entrer dans l'intimité de Dieu si on ne sait pas écouter? L'intimité de Dieu, c'est 90% d'écoute, 10% de parole. Ah, je croyais que c'était le contraire. Ben non. Dans la prophétie d'Ésaïe, l'écoute est directement liée au fait de recevoir une langue exercée. On voudrait avoir la langue exercée sans avoir écouté avant. Il éveille mon oreille. Dès le matin, il me parle, et parce qu'il m'a parlé, alors ma langue est exercée. On confond vitesse et précipitation. On veut être serviteur avant d'avoir été formé. On veut parler sans avoir écouté. Non ? On veut parler sans avoir écouté. Terrible. Allez, je vais vous dire un secret sur ma vie. Vous savez comment on m'appelait à l'école ? Il y avait un instituteur qui était un ami de mon père. Il faisait du judo avec mon père, il venait se faire coiffer chez mon père qui était coiffeur. Et cet instituteur dit « Ah, ton fils, je l'aime bien. » Mon père dit « Ah bon, pourquoi tu l'aimes bien ?»« Parce que c'est monsieur je sais tout. Dès que je pose une question, il dit « Je sais. » Quand je lui dis « Tu sais quoi ?» dit « Je sais pas. » « Je sais. » Déjà tout petit, c'était comme ça. Et toi, comment t'étais quand t'étais petit? Comment on t'appelait? La timide? Le coléreux? La cariâtre? Celui qui n'y arrivera jamais? Qu'est-ce qu'on a mis sur toi? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Est-ce que c'est le Christ qui a dit ça sur ta vie? Pourquoi tu portes ça encore? Je vous fais rire, mais je lutte moi aussi contre ces choses. C'est difficile de se débarrasser de tout ça. C'est difficile d'enlever tout ça de notre vie. De défaire ce vêtement qu'on s'est mis. Mais si on ne retire pas celui-là, comment pouvons-nous mettre celui du Seigneur sur nous? Dis-moi, quand tu mets des vêtements propres, t'enlèves d'abord les sales? Ou tu mets les propres par-dessus les sales? Bah, t'enlèves les sales. Oui, à un moment donné, tu te retrouves à nu, à découvert. Et avec Christ, c'est pareil. À un moment donné, il faut que tu acceptes d'être à nu, à découvert, que tu te dépouilles afin de pouvoir te revêtir du vêtement qu'il a pour toi. Et c'est pas facile. Mais si je peux le faire devant vous, vous pouvez pas le faire devant le Seigneur, vous? Dites-moi. Si je vous parle de ma vie, à vous qui êtes des êtres humains et qui pouvez me juger et vous servir de mes faiblesses pour me faire du mal, Parce que c'est comme ça qu'on fait, vous savez, je suis pas un bébé de l'année, moi. Je suis pas un veau de l'année. Mais si je suis capable de le faire devant vous, vous n'êtes pas capable de le faire devant le Seigneur ? Qu'avez-vous à craindre de lui ? Rien. Rien. Dans la prophétie d'Ésaïe, l'écoute est directement liée au fait d'avoir une langue exercée. Et je peux enfin parler, parce que d'abord j'ai écouté ce que Dieu avait à dire. Dieu a parlé parce qu'il a parlé, alors maintenant je parle, pas des mots qui sont les miens, mais des siens. Je ne fais que de redire ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'étaient les prophètes ? Ils étaient la bouche de Dieu, la langue de Dieu. Et ils devaient redire tout ce que Dieu avait dit lorsque Dieu leur demandait. Parfois il leur disait, ne redis qu'une partie. Parfois il leur disait, scelle ces paroles. Ce n'est pas le temps de les redire. Viendra un temps où ces paroles seront enfin décelées. La connaissance augmentera. Et la compréhension de ce que je t'ai dit, Daniel, arrivera. Et ça a mis des siècles entre le moment où Dieu a parlé à Daniel et le moment où enfin les sceaux ont été ouverts. Il fallait que l'histoire se déroule pour que la compréhension puisse venir jusque dans nos cœurs et nos âmes. Nous pouvons dire qu'écouter et parler sont les deux faces d'un même processus de communication. Aussi indissociable que l'envers et l'endroit d'une pièce de monnaie. Pourquoi on peut parler ? Parce qu'on écoute. Pourquoi on écoute ? Ben pour pouvoir parler. Pour répondre à quelqu'un, il faut d'abord l'avoir écouté. Peu importe le moyen de communication. Quoique, avec la télé, j'écoute beaucoup, je réponds, mais ils ne me disent rien. C'est ma femme à côté qui me dit, mais pourquoi tu parles ? Ils ne t'écoutent pas. Ah, mais toi, tu m'entends. On fait comme si. Cependant, nous devons reconnaître que nous sommes généralement pas très doués pour l'écoute et que tout nous pousse irrésistiblement à privilégier la parole au détriment de l'écoute. En tant que chrétiens, nous nous définissons comme étant le peuple de la parole. Non ? Les chrétiens, c'est le peuple de la parole de Dieu. On ne dit pas c'est le peuple de l'écoute de Dieu. C'est le peuple de la parole. Les messagers, les témoins du Seigneur, des personnes chargées de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et nous affirmons avec assurance que la Bible contient la solution divine, parfaitement sûre et fiable à tous les problèmes de l'homme. Certains me disent, non, mais il y a des problèmes que Dieu ne peut pas résoudre. Alors il faut trouver d'autres moyens. Mais avant que ces moyens existent, ils faisaient comment les gens ? Je le dis, je le confirme, je l'ai vu faire. Dieu a une réponse, est la réponse à tous les problèmes de la vie. Je l'ai vu guérir des cancers. Je l'ai vu réconcilier des couples. Un jour, un serviteur de Dieu est monté dans un bus. Il devait aller à une convention où il prêchait. C'était en Argentine. Il est monté dans un bus parce que sa voiture était en panne. Il ne savait pas comment faire pour atteindre l'endroit où il devait aller parler. Il est monté dans un bus, et dans ce bus, c'était des personnes en difficulté cérébrale. Il était rempli de trisomiques. Et quand il est rentré dans ce bus, et qu'il a vu tous les trisomiques qui étaient assis là, dans les rangs, il a prié pour eux. Est-ce que vous pensez que c'est possible que des trisomiques redeviennent des personnes, je mets entre guillemets, normales ? Le miracle s'est accompli dans ce bus. Ces personnes sont... Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Pour que vous alliez ailleurs chercher des solutions, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Celui qui a tout créé peut tout réparer. Il peut même recréer à nouveau. En tant que chrétiens, nous nous définissons comme le peuple de la parole. Nous avons le message. La Bible contient La solution divine, parfaitement sûre et fiable à tous les problèmes de l'homme. Ainsi, il nous est facile de donner des réponses toutes faites aux personnes que nous rencontrons. Et souvent, avant même d'avoir entendu leurs questions. Selon notre propre compréhension des choses, nous partageons alors les versets bibliques que nous connaissons. On a tout un arsenal de versets bibliques. On les a appris par cœur et on sait qu'ils peuvent nous servir. Faut juste les sortir. Chou, chou, au bon moment. Ah non, celui-là, c'est pas le bon. Excuse-moi, je vais le remettre. Nous partageons alors les versets bibliques que nous connaissons et à ces noms des réponses stéréotypées. En tel problème, tel verset, tel problème, tel verset. Même certaines Bibles, parfois, vous listent les versets à côté des problèmes. Ça vous évite d'aller les chercher. Le petit verset qui va avec le petit problème. Le grand verset avec le grand problème. Alors on partage des réponses stéréotypées parce que nous avons la certitude que les autres ont besoin de les entendre. Je vais te dire ce que tu as besoin d'entendre. Hein ? En vérité, j'ai rien besoin d'entendre, j'avais juste besoin d'être écouté. Comment ne pas être parfaitement convaincu et sûr de nous à cause de la grande valeur du message que nous proclamons ? Moi, je sais que le message de l'Évangile, c'est un grand message. C'est the message. Je suis sûr de ce que la Bible contient. Pourquoi ? Parce que je l'ai éprouvé moi-même. Et parce que tellement de gens l'ont éprouvé, tellement l'ont attaqué, tellement ont cherché à la détruire. Mais bien plus que de l'aborder intellectuellement. J'ai voulu l'aborder avec mon cœur. J'ai voulu voir si ce Dieu de la parole était toujours agissant. Et il l'est. Oh, surprise ! Oh, surprise ! Et quand on croit que Dieu est vivant, la seule manière de l'écouter, c'est en lisant sa Bible. C'est sa parole. Méfiez-vous de ce que vous recevez de Dieu en dehors de ce que vous lisez dans cette parole. Ça peut être tes idées, ça peut être des esprits qui te parlent, ça peut être Dieu aussi. Donc potentiellement, il peut y avoir des erreurs. Dans celle-là, il n'y en a pas. Dieu me parle par sa parole de Dieu, la Bible. C'est d'abord la Bible qui est la source de la révélation pour notre vie. Si tu lis pas ta Bible, comment tu peux me dire « Dieu me parle » ? Je douterais, excuse-moi, de ta communion avec Dieu si tu lis jamais ta Bible. Elle est la parole de Dieu, au travers de laquelle Dieu nous parle. Bien sûr, selon Romains 1,16, l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu, l'Évangile, la parole, pour le salut de quiconque croit. Mais pour autant, nous ne devons pas oublier et prêter à une oreille attentive à ce que nos interlocuteurs voudraient aussi pouvoir partager avec nous de leur histoire, de leur souffrance et de leurs besoins. Oh, c'est pas grave ton histoire, je vais te dire ce que la Bible elle dit. Oublie ton histoire, moi je vais te dire, c'est cette histoire-là qu'il faut croire. Allons directement au problème. T'arrives chez le médecin, il te regarde, il te fait « c'est bon, je vous fais le traitement ». Tu t'es même pas assis, tu t'y as mis. Donnez-moi votre carte vitale, chic. Je vous donne le traitement. Mais je vous ai pas dit ce que j'ai. Je vous donne le traitement, c'est bon, je sais, j'ai vu. Oula. Oula. C'est un super docteur, là. Même Dr House, il est largué, quoi. Il est largué, quoi. John Stott, qui est un théologien, a écrit « L'écoute d'autrui est un art difficile pour tout le monde ». Toutefois, les chrétiens ne seraient-ils pas des auditeurs plus mauvais que les non-chrétiens parce qu'ils se croient appelés à dire aux autres ce que Dieu a déclaré ? Si un organe doit nous caractériser, les chrétiens, je crains que ce ne soit davantage la langue que l'oreille, dit-il. T'as pas tort ? Stott dira aussi avec justesse que dans son épître, l'apôtre Jacques s'en prend vigoureusement à la langue. C'est un feu, c'est le plus petit des muscles, le plus petit des membres. Mais il enflamme toute une forêt. Elle fait tellement de dégâts à la langue. Et Stott dira avec justesse dans son épître que l'apôtre Jacques s'en prend vigoureusement à la langue tandis qu'il ne s'en prend jamais à l'oreille. Et s'il exhorte ses lecteurs à ne pas parler trop, jamais il ne leur reproche d'écouter trop. Dans la Bible, le vocabulaire tournant autour de l'oreille et de l'écoute est très abondant. Rien que dans le Nouveau Testament, les seuls mots de la famille du verbe « akouo » qui signifie « écouter, entendre » sont présents plus de 500 fois. Plus de 500 fois, la Bible nous dit « écoute, entends, écoute, entends ». Et pour ne citer que ces passages, et pour ne citer que un de ces passages, vous connaissez tous la formule répétée 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. 7 fois, le chiffre de la plénitude quand même. Dans Apocalypse 2 et 3, où il est écrit « que celui qui a des oreilles entende ». Vous avez tous des oreilles ? Je ne parle pas de celle-là. Les oreilles de votre âme, de votre cœur. Il y en a qui connaissent Épictète ? Oui ? Épictète que oui, Épictète que non. Non, ce n'est pas celui-là. C'était un philosophe stoïcien du 1er siècle. Il a dit quelque chose que les chrétiens, des fois, se disent les uns les autres, sans savoir que c'était lui. Hein. Dieu a donné à l'homme deux oreilles, mais une seule bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. Le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir deux langues et une oreille, souvent. On parle deux fois plus qu'on entend. Avez-vous des pathologies auriculaires ? Vous allez me dire, il faut aller voir un ORL. Non, je vais vous dire, le Seigneur, il va s'en occuper. Nous devons reconnaître que nous avons généralement beaucoup de peine à écouter convenablement les autres et qu'il y a une quantité de pathologies auriculaires qui font des obstacles à une écoute de qualité. Avez-vous perdu quelques décibels au niveau de votre audition ? Vous savez que tous les gens qui ont perdu des décibels au niveau de l'oreille, ça va modifier quelque chose dans la manière dont ils vont parler. Oui ou non ? Comment ils vont parler différemment des autres ? Plus fort ? C'est-à-dire, celui qui entend mal va parler plus fort. Méfiez-vous de ceux qui parlent trop fort. Pas parce qu'ils ont des problèmes d'oreille là, pas... puis on ne voulait pas ceux qui ont des problèmes de surdité qui parlent fort, parce qu'ils ne s'entendent pas. Mais je parle spirituellement. Il y en a qui parlent fort spirituellement. Ben vous pouvez vous dire, ceux-là, je ne suis pas sûr qu'ils ont bien écouté. S'ils avaient bien écouté, ils auraient parlé moins fort. Avez-vous perdu quelques décibels au niveau de votre audition ? Souffrez-vous d'otite obstructive ? Vous savez, c'est tellement enflammé le conduit qu'il gonfle, il gonfle, il gonfle et à la fin on n'entend plus. Avez-vous une inflammation, mais pas d'un bon feu, d'un mauvais ? Vous avez tellement écouté de choses que maintenant le conduit, il est tout irrité. Il s'est enflammé, il y a eu une otite, il y a eu un mauvais vent là qui est rentré dans mon oreille et puis j'ai quelques microbes qui s'y sont déposés et puis aujourd'hui je souffre d'une otite, j'entends plus. J'entends plus Dieu me parler, j'entends plus rien. C'est comme si j'étais devenu sourd. Alors je parle fort maintenant pour que tout le monde m'entende. Alors que le plus simple, c'était tellement d'aller voir le Seigneur et de lui dire « J'entends plus, Seigneur. Alors je ne vais pas parler, parce que j'entends pas. Parle-moi, guéris-moi. Redonne-moi l'écoute. Et alors ma bouche redeviendra comme la plume d'un habile écrivain. Je pourrai redire ce que tu m'as dit et rien d'autre. Mon avis ne compte pas. » Écoute bien ce que je te dis. Ton avis ne compte pas. Ce que tu ressens, ce que tu éprouves, ne compte pas. Mais comment ça, c'est ce que je ressens? C'est ce que le Seigneur veut qui est important. Ce n'est pas ton avis qui est important. Et quand tu te tiens devant Dieu, tu peux lui émettre ton avis. Mais n'oublie pas que c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il dit qui est important en finalité. De nombreuses choses peuvent nous empêcher d'écouter et d'entendre. Les situations sociales respectives. On n'est pas du même milieu, on ne peut pas se comprendre. Il est patron, je suis ouvrier. C'est un homme, je suis une femme. Les différences d'âge. Est-ce qu'un minot, là, il peut venir te parler de la part du Seigneur ? Je me souviendrai toute ma vie un jour. J'étais en caravane et on était en train de prier. Et puis il y a une femme gitane qui est rentrée dans la caravane. Et puis elle avait tout le sourire, elle était guillerette, et là il y avait un enfant qui était au milieu de nous, qui a regardé cette femme, et il lui a dit, toi tu souris, mais en vérité dans ton cœur tu pleures. Elle s'est effondrée en larmes. Il a cassé ses belles apparences en deux paroles. Et là dans la caravane, elle s'est repentie, elle a demandé pardon à Dieu, un enfant avait percé sa cuirasse. Deux paroles. En vérité t'as le sourire, mais au fond de ton cœur tu pleures. Il a rien dit d'autre cet enfant. Différence d'âge. L'aspect physique de notre interlocuteur, il est trop ci, pas assez ça. Les conditions du moment. Ah, je suis pas dans ma bonne forme, je suis pas. C'est pas le moment, hein. C'est quand le moment? Une certaine immaturité intellectuelle ou affective nous empêche de bien écouter. Et une foule d'autres barrières diverses, ça c'est le fourre-tout là, je mets tout dedans comme ça. Les préjugés, l'égocentrisme, l'esprit de conservatisme, la tendance à contredire systématiquement. La manière de s'exprimer qui est différente parfois. Les projets personnels qui sont en cours, ah bah oui, comme on a déjà mis les projets en cours, on n'a plus envie d'entendre quelqu'un qui va nous dire que c'est pas bon. Bah oui, je suis déjà en route. Me dis pas que je suis sur la mauvaise route. Et qu'il faut faire demi-tour. Vous savez, tu pars en vacances et d'un seul coup, tu te dis, j'ai oublié mes lunettes. Tu avais 800 km à faire et tu es à 399. Et tu te dis, dans un kilomètre, je suis à la moitié. Est-ce que ça vaut la peine de retourner chercher les lunettes à la maison? Oh! Ou est-ce que je vais passer un mois à rien y voir, à avoir des maux de tête? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, fais demi-tour! 400 bornes à refaire dans un sens, et puis les refaire dans l'autre! Bah ouais, quand on n'a pas de tête, on a des roues. C'est en voiture, ça va, ça va. Juste pour vous détendre, à ce morceau du message, un jour, j'étais dans la voiture avec mon père, on partait au sport d'hiver avec ma famille. Et à 25 km, mon père dit « Oh, il faut qu'on s'arrête !» Il n'avait pas fait 400 km. On était en Normandie et on allait jusque dans les montagnes pour aller faire du ski au sport d'hiver. 25 km, il s'arrête, il dit « Il faut qu'on fasse demi-tour. » Et ma mère lui dit « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Je suis parti en chaussons. Il était tellement bien dans ses chaussons, il avait rangé les valises, tout, il était monté dans la voiture avec les chaussons, il était parti en chaussons. Il dit « J'ai pas pris mes chaussures, je suis parti en chaussons. » Trop drôle. On a fait 50 bornes pour qu'il aille remettre les chaussons à la maison et puis qu'il remette ses chaussures et qu'on parte. Trop drôle. Des fois, ça vaut la peine de faire demi-tour. Revenir sur certaines choses. Les projets personnels, le vagabondage des pensées, la tendance à rêver. N'avez-vous jamais remarqué que parfois, quand vous parlez, votre interlocuteur n'écoute qu'en surface, d'une oreille distraite, croyant pouvoir cerner votre pensée et par là, deviner la suite de vos propos? Ça nargue, ça, non? Comment vous sentez-vous alors et que pensiez-vous donc de votre interlocuteur rêveur? Dietrich Bonhoeffer, l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, elle est terrible. Il a été tué par les soldats allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis pendus avec un barbelé. Il a été persécuté pour sa foi chrétienne parce qu'il était contre le régime nazi. C'est un des seuls en Allemagne qui n'est pas rentré dans la logique nazie parmi tous les pasteurs et toutes les églises. Curieux, non? Le premier service que l'on doit aux autres consiste à les écouter, a dit Bonhoeffer. Le premier service. Savez-vous que le simple fait d'écouter l'autre apporte à l'autre des solutions? Quoi? Sans que je lui dise rien? Rien qu'en l'écoutant, il a déjà les solutions? Ben oui. Peut-être certains connaissent le docteur Paul Tournier. Il a écrit des livres. Et ce médecin écrivait « Autrefois, à cause même de mon zèle à aider les hommes dans leurs difficultés, je me préoccupais surtout de ce que je devais leur dire. » Ben oui, c'est un médecin en même temps. Il doit savoir quoi dire. Pendant qu'ils me parlaient, je m'inquiétais de savoir que répondre aux problèmes de leur vie. Aujourd'hui, j'ai compris que les écouter avec intérêt est plus important que de méditer ma réponse. Et cet intérêt n'est pas factif. Il n'est rien de plus passionnant que de comprendre une vie, dit-il. Et j'ai eu bien souvent le sentiment qu'écouter ainsi, avec patience et intérêt, ces récits constituait déjà un traitement. Beaucoup de malades, avant même que je ne leur eusse rien dit, voyaient déjà clair en eux-mêmes et dans ce qui devait être réformé dans leur vie, changé dans leur vie. Par le seul fait qu'ils avaient dû, une bonne foi, considérer leur vie dans son ensemble, la repasser dans leur esprit comme une grande fresque. Tant de gens sont entraînés dans le tourbillon d'une vie trépidante sans jamais avoir le temps ni le courage de se regarder en face. Vous vous rappelez le désert, rentrer dans le désert et puis là, silence. Pourquoi le Seigneur nous emmène dans le désert ? Et d'un seul coup, il ne parle plus, il ne dit plus rien. C'est pour que tu te vois tel que tu es, enfin. Et que tu acceptes que Dieu fasse un travail. Que tu prennes la pleine mesure là, dans le silence, quand il ne dit plus rien. Tu es en face de toi-même. Il te met en face de toi-même. Alors là, si l'orgueil perdure, c'est terrible. Parce que je connais personne qui est passé dans le désert, qui ne s'est pas retrouvé, pas dans l'humilité, mais dans l'humiliation, sincèrement. Certaines personnes me disaient, « Pasteur, je me dégoûte. Je me dégoûte. » Ah ben c'est bien. Dieu agit, alléluia. Il va pouvoir enfin travailler. Il va pouvoir faire ce qu'il attend depuis tellement longtemps. Écoutez, c'est aimer. Et aimer, c'est comprendre. Non ? Écoutez, c'est avant tout un acte d'amour. C'est se donner à quelqu'un, se rendre accessible, vulnérable à ce qu'il dit. Écoutez, c'est donner. Voilà pourquoi l'on aime celui qui écoute. Mais écoutez, c'est aussi se donner. Voilà pourquoi les bons écouteurs sont aussi rares. Parce que se donner. Alors la véritable écoute est un acte qui écoute. Ainsi, seul celui qui aime vraiment est capable d'écouter vraiment. Dans un de ses livres, Bonhoeffer a écrit « Dans la communauté, l'écoute des autres est le premier service que l'on doit rendre. De même que l'amour pour Dieu commence par l'écoute de sa parole. L'amour pour le prochain se mesure à l'écoute qu'on lui prête. L'amour de Dieu pour nous ne réside pas seulement dans le don de sa parole, mais également dans l'oreille attentive qu'il nous porte. » Vous êtes d'accord que Dieu ne fait pas que de vous parler, il vous écoute aussi. C'est important que Dieu vous écoute. Si à chaque fois que vous priez, fais « Chut, tais-toi, je vais te dire ce que tu as besoin. » Bon. Il me l'a fait quelques fois, mais franchement, parce qu'il savait que j'étais pressé. En apprenant à écouter notre frère, nous accomplissons l'œuvre de Dieu. À plusieurs reprises dans les évangiles, Jésus s'est plu à associer étroitement les verbes « écouter » et « comprendre ». Écouter, comprendre. En disant par exemple à la foule, écoutez et comprenez. Vous ne bornez pas à écouter seulement, comprenez ce que je dis. En hébreu, le verbe écouter signifie entendre, comprendre et obéir. Écouter, ça ne veut pas juste dire, ça rentre par là, ça sort par là. Mais c'est entendre, comprendre et obéir. Ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique ce que vous avez entendu. Dans le verbe grec « sunemei », traduit par « comprendre », il signifie littéralement « mettre » ou « amener ensemble » et contient donc l'idée d'un rapprochement, d'une mise ensemble de deux personnes, d'un mouvement commun dans une même direction. Et quand j'écoute Dieu, je m'associe à Dieu pour aller dans la direction de Dieu. C'est pas juste. Seigneur, tu vois les problèmes dans, tu vois mes, viens avec moi là, viens. Non. Écoutez Dieu, c'est ok, j'ai mes problèmes, je t'en parle. Et je m'associe à toi, Seigneur. Si ces problèmes-là doivent être laissés pendant un temps, peu importe, je veux être là où tu es, faire ce que toi tu es en train de faire, agir là où tu agis. Et si tu me dis de rester assis, je resterai assis le temps qu'il faut. C'est à ça qu'on reconnaît un disciple. C'est pas quelqu'un qui court dans tous les sens, qui veut faire pour faire. Dans une véritable écoute, je cherche à rencontrer l'autre, c'est-à-dire à faire corps avec celui qui me parle, le rejoindre pleinement dans sa situation. Je veux être un avec mon interlocuteur, en m'identifiant le plus possible à lui. Je fais un réel effort pour me mettre dans sa peau, le rejoindre sur son terrain, de la manière à bien saisir quels sont ses vrais besoins. Ainsi, pour écouter vraiment, il faut écouter humblement, en sachant qu'on a beaucoup à apprendre de l'autre. Un jour, un vieux pasteur gitan me disait « Xavier, chaque homme est un monde. Quand tu écoutes un homme, prépare-toi à faire un grand voyage, tu vas découvrir un monde. » Je disais « Ouais, c'est un peu... Il exagère, hein. Chaque homme un monde. Un village, quoi. Certains une caisse, petite caisse. Non, chaque homme est un monde !» Infiniment complexe, avec toute une histoire, avec des événements, avec une vie, avec tellement de choses, des pensées qui ne cessent d'aller, de venir. C'est tellement complexe un être humain, tellement complexe. Chaque homme est un monde. Il faut écouter avec tout son cœur, car il faut s'intérioriser à ce qui nous parle. À ceux qui nous parlent, poursuivre vraiment leurs pensées et tout ce qui la conditionne. Écoutez. Vraiment, c'est écouter dans un parfait renoncement à son esprit propre et à toute théorie. Autrement, on n'écoute pas, mais on interprète et on transforme. Pour bien écouter les autres, il faut que Dieu éveille notre oreille. Dans Job 33, 14, il est écrit « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et le problème, c'est qu'on n'y prend pas garde. Dieu parle, c'est une évidence, mais qui l'écoute réellement ? Au psaume 81, versets 14 à 17, il est dit « Aussi mon peuple m'écoutait. » S'il m'écoutait vraiment. « Si Israël marchait devant mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirais du meilleur froment et je le rassasirais du miel du rocher. » La question qui se pose, c'est « Entendez-vous facilement Dieu vous parler ?» Je vous ai dit, c'est par ça qu'il parle. Mais si ça, vous n'arrivez pas à le comprendre ou vous le mettez en doute, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous venez demander. Veuillez consulter l'annuaire ou le service des renseignements. T'appelles le service des renseignements, ça n'existe plus. Veuillez aller sur Internet. J'ai pas de connexion. Mais Dieu, il n'y a pas de téléphone. Il a déjà donné sa parole. Une parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, capable de séparer l'âme de l'esprit, la moelle des jointures. Efficace, très efficace. Comme le déclare Esaïe, Dieu désire chaque matin éveiller notre oreille pour que nous écoutions comme écoutent les disciples, c'est leur caractéristique, et que nous puissions ensuite soutenir ceux qui sont abattus, venir dès le matin dans la présence de Dieu avec la Bible ouverte pour écouter Dieu, que Dieu, ce que Dieu souhaite nous dire. C'est cela, se faire éveiller et finalement ouvrir l'oreille. Quand notre oreille commence à être éveillée par Dieu, il finit par nous l'ouvrir. Et les caractéristiques d'un disciple à l'oreille ouverte sont les mêmes que celles du serviteur souffrant d'Ésaïe. Il y en a qui ont déjà eu des otites et que l'ORL a été obligé de percer le tympan. Ça fait mal, hein ? Et parfois, quand on a des otites et qu'on n'entend pas Dieu, il désire nous ouvrir l'oreille pour que le pus et l'infection s'échappent. Mon frère, ma soeur, t'as du pu et de l'infection dans tes oreilles si t'entends pas Dieu. Et Dieu désire t'ouvrir l'oreille, faire sortir tout ce qui doit sortir, dégager l'infection de ta tête. Sinon, c'est toute ta tête qui sera infectée. C'est un mal pour un bien. Il n'y a pas autre chose à faire. Quand notre oreille commence à être éveillée et que Dieu finit par nous l'ouvrir, nous entrons dans les caractéristiques du serviteur souffrant d'Ésaïe 50. Je ne me révolte plus. Je ne me dérobe plus. Je présente mon dos à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Ça va là ? C'est ça, le modèle. Pas simple. Je ne protège pas mon visage des outrages et des crachats. Un tel disciple ne restera pas la bouche fermée quand il rencontrera des personnes abattues. Mais il se taira devant les contradicteurs. Au psaume 45, verset 1, il est dit « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 11, déclare « Vous êtes devenus lents à comprendre. » Et Paul, dans 2 Corinthiens 3, 14, rajoute « Mais ils sont devenus durs d'entendement. » Lents à comprendre, durs d'entendement. L'expression « devenu lent à comprendre », vous savez comment elle est en grec ? C'est marrant le grec, hein ? Notrosakoé. Et vous savez comment on peut traduire notrosakoé en français ? Paresseux des oreilles. Vous êtes devenu lent à comprendre, c'est vous êtes des flemmards des oreilles, des paresseux des oreilles. Êtes-vous un paresseux ou une paresseuse des oreilles ? Négligez-vous de passer du temps à l'écoute de Dieu dans la lecture et sa parole ? Dieu parle sans cesse par sa parole, par son esprit, par la prière et à travers les ministères de l'Église. Mais la seule limite à laquelle Dieu se confronte, c'est simplement celle de l'intérêt que nous portons à vouloir l'écouter, lui. De l'amour que nous avons pour lui. Notre ouverture spirituelle et notre disposition de cœur sont des conditions requises pour entendre Dieu parler. Et l'apôtre Jean, qui aimait sans cesse passer du temps à écouter Jésus, rappellera cette merveilleuse parole du Christ dans Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Il n'est pas dit que celui qui est de Dieu ne cesse de parler à Dieu. Celui qui est de Dieu, sa qualité principale, c'est qu'il écoute les paroles de Dieu. C'est quelqu'un qui entend Dieu. Êtes-vous à l'écoute des paroles de Dieu ? Sachez que nous prouvons notre appartenance à Dieu par l'écoute et l'obéissance que nous démontrons à l'égard de sa parole, qu'il est bon d'écouter Dieu et de l'entendre et de comprendre sa volonté. J'arrive au bout. Ce serait dommage pour 3 minutes de partir. Ne laissez pas les bruits ambiants vous parasiter. Ne laissez pas l'activisme vous prendre le temps de votre relation avec Dieu. Faites plier votre volonté personnelle pour rejoindre la sienne. 3 petits conseils qui aident bien déjà. Peut-être est-ce un temps pour vous actuellement d'écouter Dieu ou d'apprendre à l'écouter, de faire silence devant l'Éternel. Toujours Ésaïe au chapitre 41, verset 1er, il est dit « Faites silence » et c'est Dieu qui parle. « Faites silence, pourquoi ?» Pour m'écouter. Faites silence pour m'écouter. En conclusion, j'aimerais vous parler d'Ignacio Silone. Il y en a qui connaissent ? Non ? Personne ? C'est un romancier italien. Il a écrit un livre à propos d'un révolutionnaire qui était traqué par la police italienne. Vous savez qu'à une époque, en Italie, c'était les fascistes. Et lui, il était révolutionnaire, communiste, et il était traqué par les fascistes. Et pour le cacher, ses camarades, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, camarades, lui mirent des habits de prêtre, un communiste révolutionnaire en habit de prêtre. C'est drôle, non? Et l'envoyèrent dans un village isolé des contreforts des Alpes. Dans un petit village, il était caché, il était habillé en prêtre, on lui avait filé le presbytère, l'église, tout, il se cachait. Il n'y a pas plus innocent qu'un prêtre, non? Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais bon. La nouvelle se répandit bientôt et une longue file de paysans pleins de récits de leurs péchés et de leur vie brisée apparurent à la porte du prêtre. Il y a un nouveau prêtre. Ah ben on va aller le voir. Et là, devant la porte du presbytère, il y avait une file de paysans qui étaient là pour se faire confesser. Le prêtre protesta, non. Et essaya de les faire partir, mais ils restèrent devant chez lui, attendant qu'il fasse ce pourquoi il était dans le ministère de prêtre. Et il n'eut pas d'autre recours que de s'asseoir et d'écouter tous ces gens assoiffés de grâce. Parce que ce que tous ces gens avaient besoin, c'était d'être écoutés. Ils avaient besoin d'une grâce. Que quelqu'un leur dise, tes péchés te sont pardonnés. Aucun homme peut pardonner les péchés d'un autre homme. Si ce n'est que si vous me faites du mal à moi, je vous pardonnerai le mal que vous m'avez fait. Mais vous aurez quand même à traiter les péchés avec le Seigneur. Le seul qui peut pardonner vos péchés, c'est le Seigneur. Mais si quelqu'un de spirituel un jour vient vers vous et vous dit, le Seigneur a entendu tes prières. Il a entendu que tu es venu devant lui demander pardon pour tes péchés. Et il m'envoie maintenant te dire, tes péchés te sont pardonnés. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous ferait d'entendre ça? Quelle assurance? Non? Vous savez, c'est quoi la parole qui vient derrière? Mais va et ne pêche plus. C'est pas va et continue. C'est va et ne pêche plus. Alors j'aimerais vous dire une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Tes péchés ont été pardonnés. Mais va et ne pêche plus. Écoute ce qu'il a à te dire et obéis. Simplement, humblement, obéis. J'espère que s'il y avait otite ce matin, le tympan a été percé, l'infection est dégagée et qu'à partir d'aujourd'hui, l'écoute est rétablie.